Radio Classique, les spécialistes.
Les spécialistes à 7h38 sur Radio Classique. Elodie, avec qui nous allons parler. Bande dessinée, Dimitri Pavlenko. Bonjour ma chère Elodie. Évidemment, pour faire un point sur les retraites. Mais nous partons immédiatement pour la Chine avec vous, Emmanuel. Emmanuel
Faux.
Bonjour. Revenons sur la mobilisation sans précédent des autorités chinoises pour tenter de contenir l'épidémie de pneumonie due au coronavirus. Plus de 30 millions d'habitants sont mis en quarantaine. Le périmètre de confinement a donc été élargi, on vient de l'apprendre. Le dernier bilan officiel, Emmanuel, est de 25 morts et Pékin ne lésigne pas sur les mesures de protection.
Ben oui, Renaud, la mesure à la fois très symbolique et très spectaculaire, c'est évidemment de l'annulation de toutes les festivités qui étaient prévues à partir de demain pour le nouvel an chinois. C'est d'une certaine manière le renoncement à l'un des rituels les plus importants dans la culture chinoise, auquel il faut ajouter évidemment le symbole des symboles, la fermeture de la cité interdite qui portera très bien son nom dans les jours qui viennent. Tout cela complète le dispositif de ces derniers jours dans la région de Wuhan, masques sanitaires, arrêt des transports en commun, fermeture des aéroports et même le projet d'ouvrir un hôpital dédié aux malades du virus d'ici moins d'une semaine. Autant de signaux qu'envoient les dirigeants chinois pour dire qu'ils ont bien tiré les leçons de la gestion calamiteuse du SRAS en 2002 et qu'ils réagissent. Le problème, c'est que la gestion de la crise reste encore et toujours une gestion très politique. Le premier cas de pneumonie remonte au 31 décembre et ce n'est que lundi dernier, soit 20 jours plus tard, que le président chinois Xi Jinping a donné le top départ de la mobilisation. Il a suffi que le président parle pour que tout le pays se réveille, que les autorités sanitaires soient sur le pont. En quelques jours et à l'approche des grands mouvements de foule du nouvel an, on est passé d'un silence opaque à la chinoise, au tout communication à l'occidental, avec un enjeu de taille pour les autorités de Pékin, éviter la catastrophe qui entacherait l'image d'une Chine en pleine bataille économique et commerciale.
Alors Emmanuel, il n'y a peut-être pas matière à une psychose quand on voit qu'hier soir, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'il était trop tôt pour déclarer l'urgence internationale.
Écoutez, cette formule « il est trop tôt » est proprement ahurissante. Quand il s'agit d'un phénomène viral qui fait chaque jour plus de victimes et de plus en plus loin de l'épicentre ou du berceau, c'est-à-dire le marché central de Wuhan, le « trop tôt » sous-entend qu'il sera toujours temps plus tard, si le bilan s'alourdit significativement, de décréter l'urgence. Cela veut dire que l'OMS, dont le rôle est de prévenir du danger sanitaire, de prendre les mesures éventuelles pour freiner l'extension d'une épidémie, décide après des heures et des heures de réunions à Genève de ne rien décider et de ne pas déclencher un processus de coordination internationale qui pourrait permettre d'étouffer la crise dans l'œuf, et notamment dans les pays qui n'ont pas les moyens de se battre tout seuls. On voit bien qu'il y a un aspect évidemment psychologique dans la décision de l'OMS, qui cherche à rassurer et qui veut accréditer l'idée que l'affaire va rester purement chinoise, mais sans doute aussi un aspect économique, là je parle sous le contrôle de Dimitri,
Oui, tout à fait. Bah, Wuhan, je te raconterai un peu ce qu'est Wuhan pour la Chine juste après, quand vous aurez fini, Emmanuel. C'est assez intéressant de voir ce que c'est cette ville qui est sur les rives du Yangtze. 11 millions d'habitants, c'est la région parisienne quand même. On l'appelle Chicago là-bas, c'est la Chicago chinoise, Wuhan.
Voilà, et puis il y a aussi cette autre annonce d'hier soir, Renaud, de l'OMS, qui nous dit que la transmission interhumaine hors de la Chine n'est pas prouvée, ce qui ne veut pas dire que cela n'arrivera pas dans d'autres pays, dit le directeur général de l'OMS. Alors là, encore quel message de passivité. Là, on attendrait de la prévention, de la mise en alerte. En gros, l'OMS dit à l'opinion mondiale, ça va peut-être s'aggraver, mais on verra plus tard. Et au lieu de rassurer, cette communication, elle risque fort d'inquiéter.
Voilà, Emmanuel Faux qui taille en pièces l'OMS. Ouais. Très remonté, Emmanuel, contre l'Organisation mondiale de la santé. Vous voulez ajouter un petit mot, Dimitri, sur ce dossier?
Ben oui, parce qu'en fait, quand Emmanuel, vous dites qu'effectivement, il ne s'est rien passé depuis un mois depuis l'apparition du premier cas.
Fin décembre.
C'est aussi parce que, en fait, en Chine, ça on le sait peu, mais le pouvoir est extrêmement déconcentré au niveau des autorités locales. Et ce qui sort aujourd'hui, c'est que, au niveau des autorités locales de la ville de Wuhan, on a été très optimiste sur la gestion de la crise. Le Wall Street Journal raconte ce matin que dimanche dernier encore, il y avait un banquet public dans les rues de Wuhan, avec plus de 10 000 personnes qui dégustaient du coup de canard grillé. Quand il y a une épidémie type d'un virus inconnu, on fait pas un banquet public comme cela. Il y a eu reprise en main totale depuis lundi par les autorités de Pékin. Et je peux vous dire qu'à mon avis, à Pékin, ils ont donné des gages à l'OMS que ça allait être contenu. Pour le SRAS en 2003, rappelez-vous quand même, la ville de Singapour avait été mise sous cloche pendant 5 semaines. Singapour.
Alors, on va quitter l'Asie, retour en France pour parler, figurez-vous, des retraites. Les retraites encore et toujours avec aujourd'hui présentation de cette réforme en Conseil des ministres. Moi, j'ai une grande question à vous poser. Je la poserai d'ailleurs à mon invité à 8h15, Amélie de Montchalin. Le coût le coût de cette réforme.
Ah ben, on a hâte de savoir. Moi, j'ai hâte de découvrir, au-delà du projet de loi qu'on a vu, hein, déjà, c'est cette fameuse étude d'impact que le gouvernement a promis. Cette étude d'impact, on annonce qu'elle fera plus de 1000 pages. Hein. Elle va être présentée aujourd'hui. C'est l'étude d'impact officielle de la réforme. Alors, à la fois sur le système des retraites lui-même, sur le niveau des cotisations, combien vous toucherez, combien vous cotiserez, mais aussi l'impact sur les finances publiques. Alors là, je peux vous dire, ça va se chiffrer en dizaines de milliards d'euros. Pourquoi? Eh bien, ce sont tous ces négociations qui sont lancées depuis maintenant près de 2 mois avec les différentes professions. Et si vous prenez rien que pour les enseignants à qui on a promis une revalorisation salariale, vous savez, le passage au système par points qui implique une pension calculée sur l'ensemble de la carrière par rapport aux 6 derniers mois actuellement pour les enseignants, c'est moins 20% sec. D'où cette obligation de revaloriser les traitements des profs. 70 milliards, ça va coûter sur 15 ans. Ça va coûter très cher. Et le même scénario va se répéter dans d'autres entreprises. À la RATP, ça aura évidemment un impact financier beaucoup plus limité, mais aussi à l'Opéra de Paris, etc. Et le gouvernement, en parallèle, dans la réforme, prend le pari de se priver de ressources en disant on va baisser les cotisations pour les hauts cadres. Vous savez, c'est toute l'affaire de cette cotisation à 2,8% sans droit au-delà de 10 000 euros de revenus.
240 000 cadres, hein, c'est ça.
Voilà, ça va coûter 3,7 milliards par an. C'est ce que ça rapportera en moins à la GIRC-ARRCO, soit à peu près le tiers de déficit qui est prévu pour le corps, par le corps pour le régime des retraites à l'horizon 2025. Donc bon courage à la conférence de financement et aux syndicats qui commencent à se réunir. Le Premier ministre l'annonce ce matin à partir de jeudi prochain.
Voilà, jusqu'au mois d'avril. Question, Dimitri, est-ce que pour vous, la réforme est bouclée?
Ben non, loin de là, parce que là, il y a la présentation du texte, ça continue un petit peu dans la rue, on verra s'il y aura un
journée de mobilisation. Effectivement, 7e journée de mobilisation dans la rue aujourd'hui.
Voilà, et round 2, c'est à partir du 3 février au Parlement, avec l'examen du texte en commission, puis le 17 dans l'hémicycle en plénière. Et là, on nous annonce clairement une véritable guérilla parlementaire. Vous avez la gauche qui est extrêmement remontée, qui va déposer des amendements, bataille de procédure au début. La droite qui compte carrément déposer un contre-projet en proposant notamment le report de l'âge légal à 65 ans, etc. Bref, il va y avoir une forme d'empêchement et ça va être compliqué puisque le gouvernement veut une procédure accélérée pour l'examen du texte avec une adoption en première lecture le 3 mars, soit avant les municipales. On verra ce jour-là où on en est. Il y a fort à parier que le texte ne sera pas adopté à cette date-là, avant la vacance parlementaire qui est prévue avant les élections municipales.
Merci Dimitri pour ce point sur cette réforme des retraites. Nous changeons totalement de sujet. Nous quittons le Conseil des ministres, la capitale, direction le Festival d'Angoulême, où l'on va parler bande dessinée avec vous, Élodie. Vous avez eu un coup de cœur pour une bande dessinée, pour une BD qui a été d'ailleurs couronnée par le prix Fnac, In Waves, d'Aj Djungo, paru chez Casterman.
Oui, à quelques jours de la 47e édition du Festival d'Angoulême.
In Waves, si mon anglais est à peu près approximatif, mais
des
vieux souvenirs, voilà, sur les vagues.
Exactement. Voilà. Et bien voilà, Aj Djungo, tout jeune auteur de bande dessinée, c'est un premier roman graphique. Aj Djungo était au lycée quand il a croisé pour la première fois celle qui allait vraiment devenir l'amour de sa vie, Kristen. Il était, lui, un ado aux bras maigres, mal dans sa peau. Elle était tout l'inverse, il l'a aimée au premier regard. Il l'a embrassée la première fois un jour de pluie. Mais peu à peu, un rival s'est installé dans la vie de Kristen, qui lui a pris tout son temps, son rire, son corps. C'était un cancer qui a fini par avoir raison d'elle et de leur amour. Elle avait à peine 25 ans. Mais avant de partir, Kristen lui a fait promettre quelque chose, de la garder vivante à travers son dessin et de raconter leur histoire.
Alors, Élodie, pourquoi le surf?
Le surf, c'était la passion de Kristen. Et bien sûr, elle avait initié son amoureux, elle avait initié Adj. Donc, parler du surf, c'était parler d'eux, d'une joie commune. C'était parler d'elle, parce que ce monde inconnu, ce monde aquatique, une vibration, un espace de liberté infini où on échappe à la gravité, à la pesanteur, c'était lui donner un espace de vie. Et puis, en même temps, une occasion d'échapper à la gravité, à la pesanteur de la maladie aussi. C'est vrai que parler de l'océan, c'est à la fois parler de force et d'abîme, du monstrueux et du matriciel, la noyade, le danger, mais c'est aussi la vie, c'est parler de leur histoire. Et puis c'est vrai que quand on a vécu un deuil, on le sait bien, le chagrin, c'est une vague qui arrive, qui reflue, qui emporte et qui brise. Et le surf, ce n'est rien d'autre qu'apprendre à utiliser cette vague et pas seulement la subir en quelque sorte.
Alors en parallèle à cette histoire, il y a, me disiez-vous, finalement l'histoire du surf.
Oui, même en miroir de leur histoire d'amour, il a décidé de raconter à Django le destin de deux des figures tutélaires de cette discipline. Alors, dont moi j'ignorais absolument tout, Duke Kahanamoku, qui est le père du surf, qui est né en 1890. C'était un Hawaïen qui a fait découvrir le sport au monde entier. Il était un champion de natation extraordinaire, on l'appelait Hydroman. Et puis le second, Tom Blake, lui, né au début du siècle, 1902, dans le Wisconsin, considéré comme le créateur du surf moderne, avec surtout à son actif l'invention de la planche creuse. Et à travers eux, on découvre en fait, je dirais, c'est assez fascinant, l'histoire d'une discipline qui est ancestrale. Les premiers Polynésiens, en fait, trouvaient refuge dans l'eau, et on perçoit l'essence de ce sport qui est vraiment une expérience spirituelle de communion avec la nature avant d'être une performance.
Alors Élodie, d'un point de vue graphique, comment s'organisent ces récits ?
Et bien, comme des vagues, c'est vraiment, ouais. On suit le flux et le reflux de ces histoires entrelacées, donc il y a deux couleurs, Ad Chungo a choisi le bleu pour le présent et pour la tristesse, et puis le sépia pour le passé. C'est des dessins qui ressemblent un peu à un storyboard, et là encore je vais parler sous le contrôle de Dimitri, mais c'est des dessins moi qui m'ont fait penser par des aplats, des courbes, des arabesques, vous savez, à la vague de Kusai, et puis à tout ce mouvement japonais des images du monde flottant. Alors évidemment pour le surf c'était tout indiqué. C'est un très très beau premier roman graphique qui tire les larmes, mais qui est aussi empreint d'une force de vie absolument extraordinaire.
On rappelle le titre.
In Waves, Ad Jungo, c'est chez Casterman.
Allez, il nous reste 15 secondes pour parler de bande dessinée et de cette statue de René Goscinny inaugurée hier à Paris.
Oui, elle est en bronze au pied de l'immeuble où il a vécu à la Muette. Il a le petit Nicolas sur l'épaule, Astérix dans le creux de la main. Ce créateur de pilote, scénariste de génie, voilà, est honoré par la ville. C'est le premier monument qui rend hommage à la bande dessinée en France.
Eh bien, c'est mieux vaut tard que jamais, mais c'est vrai qu'on aurait pu commencer un petit peu plus tôt parce que la bande dessinée est quelque chose de très important. Merci.
C'est dur d'en vivre aussi.
Hein. Élodie, oui, c'est vrai que ce livre me donne envie. C'est dommage qu'on n'ait qu'un exemplaire. Je sens qu'on va se battre dans la rédaction pour le lire. Merci Élodie, merci Dimitri et merci Emmanuel. Il est pratiquement 7h50 sur Radio Classique. L'imprévisible Marc Bourreau est dans ce studio pour son journal, évidemment.